France Culture.
Talmudique.
23 décembre 1894. Ma chérie, je souffre beaucoup, mais je te plains encore plus que moi. Je sais combien tu m'aimes. Ton cœur doit saigner. De mon côté, mon adoré, ma pensée a toujours été vers toi, nuit et jour. Être innocent, avoir eu une vie sans tache, et se voir condamné pour le crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre, quoi de plus épouvantable? Il me semble parfois que je suis le jouet d'un horrible cauchemar. C'est pour toi seul que j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour toi seul, mon adoré, que j'ai supporté le long martyre. Mes forces me permettront-elles d'aller jusqu'au bout? Je n'en sais rien. Il n'y a que toi qui puisses me donner du courage. C'est dans ton amour que j'espère le puiser. Parfois, j'espère aussi que Dieu, qui m'a cependant bien abandonné jusqu'à présent, finira par faire cesser ce martyre d'un innocent, qu'il fera qu'on découvre le vrai coupable. Mais pourrais-je résister jusque-là? J'essaierai donc de vivre pour toi, mais j'ai besoin de ton aide. Ce qu'il faut surtout, quoi qu'il advienne de moi, c'est chercher la vérité, c'est remuer ciel et terre pour la découvrir, c'est y engloutir, s'il le faut, notre fortune, afin de réhabiliter mon nom traîné dans la boue. Il faut à tout prix laver cette tâche imméritée. Je n'ai pas le courage de t'écrire plus longuement. Embrasse tes chers parents, nos enfants, tout le monde pour moi. Mille et mille baisers. Alfred.
Nous venons d'entendre un extrait d'une lettre d'Alfred Dreyfus à sa femme Lucie. On y entend les mots de cet officier innocent qui donna son nom à l'affaire, qui bouleversa la France et le monde au tournant du XXe siècle. On y entend le combat d'un homme défendant son honneur et celui de sa famille, œuvrant à la vérité et à la justice, deux catégories majeures du judaïsme. On y entend l'histoire d'un patriote profondément attaché aux valeurs démocratiques de la France libérale et républicaine, l'histoire d'un soldat d'exception contraint de renoncer à sa carrière mais engagé durant toute la guerre de 14-18 jusqu'à la victoire. C'est cette histoire que présente et raconte une grande exposition intitulée « Alfred Dreyfus, vérité et justice » au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à partir du 13 mars au 31 août 2025, dont les deux commissaires sont aujourd'hui les invités de Talmudic, Isabelle Kahn et Philippe Auriol. Bonjour.
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 Isabelle Kahn, vous êtes conservatrice générale honoraire des peintures au Musée d'Orsay, et Philippe Auriol, directeur scientifique de la maison Émile Zola, musée Dreyfus et historien. Une première exposition, Alfred Dreyfus, le combat pour la justice, lui fut consacrée en 2006 dans le même musée. Pourquoi une nouvelle exposition? Est-ce que le contexte politique et les différentes crises idéologiques que nous traversons, dans lesquelles la vérité a été jetée à terre, comme dit le Midrash, en a justifié l'urgence? Isabelle Kahn et Philippe Auriol.
Il y a eu une première exposition, en effet, qui était avant tout centrée sur l'affaire Dreyfus. Alors, bien évidemment, Alfred Dreyfus, qui en est le principal protagoniste et le héros, était au centre, puisque Vincent Duclerc, qui en était le commissaire scientifique, se bat, comme je le fais moi-même depuis longtemps, pour remettre Alfred Dreyfus à sa juste place au sein de son histoire. Et là, l'idée, c'était de montrer cette victoire de la République, sans doute. Enfin, je suis un peu embêté de parler pour Vincent Duclerc, à vrai dire. Mais de montrer cette victoire de la République au moment du centenaire de la réhabilitation de Dreyfus, 12 ans après cette condamnation inique, etc. La volonté qui est la nôtre, là, était un peu différente. L'idée, c'était de bien évidemment dire la même chose, mais pas sur une commémoration, d'avant tout centrer le propos sur Alfred Dreyfus, de montrer quel exemple il peut être aussi à une époque où, comme je dis à mes étudiants, on est en train de marcher sur la tête, et où il est absolument nécessaire de réfléchir à un certain nombre de choses. Il paraîtrait que l'histoire repasse les plats. Moi, il me semble que l'histoire est en service continu.
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'arrête jamais, quoi. Et c'est absolument étonnant, et je m'en aperçois chez Zola, à Médan, et je pense que les visiteurs du Mage vont s'en apercevoir aussi, c'est que si les choses ont un peu changé géographiquement, par exemple, les mécaniques et les argumentations, si tant est qu'on puisse parler d'argumentation, demeurent absolument inchangées. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant, voilà. Il y avait beaucoup de monde au vernissage, mercredi 12, et sans doute, n'est-ce pas gratuit? C'est-à-dire qu'on est dans un moment où soit on a besoin de se rassurer un peu, soit on a besoin de comprendre.
Isabelle Kahn, pourquoi cette exposition pour vous qui êtes co-commissaire de cette exposition?
Déjà, 20 ans après la précédente exposition, près de 20 ans, cette exposition bénéficie des nouvelles recherches, de nouvelles découvertes d'archives, d'écrits d'Alfred Dreyfus. Et puis par ailleurs, je pense que Philippe Auriol et moi-même, et Paul Salmona aussi, évidemment, qui est à l'origine de ce projet, nous voulions peut-être jeter un autre regard aussi sur cette histoire, ou peut-être raconter l'histoire un petit peu autrement, la contextualiser, essayer de comprendre au-delà des événements, enfin qui sont d'ailleurs très complexes et qu'on explique dans l'exposition, puisqu'elle est chronologique, donc on suit tous ces événements, c'est aussi l'atmosphère d'une époque. Pourquoi cette histoire, au fond, ce complot, cette machination a pu être possible? Et comme le disait Philippe, on a voulu aussi raconter cette histoire à la première personne, qui est celle d'Alfred Dreyfus. Donc il y a pas mal de citations qui accompagnent les principales sections et qui permettent aussi une vision personnelle. Enfin, c'est sa vision, donc il y a quelque chose d'émotionnel aussi qui passe dans l'exposition.
Alors quand vous dites que depuis 20 ans il y a de nouvelles recherches, il y a des recherches, les vôtres, entre autres, Philippe Auriol,
entre autres,
qui montrent que le personnage de Dreyfus, qui aurait pu paraître un peu extérieur à sa propre affaire, est en fait au centre et que ce fut un combattant pour la vérité, et ça vous le soulignez dans vos recherches et vous le montrez dans l'exposition.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu peu de travaux pendant très longtemps sur l'affaire Dreyfus. Il y a le grand livre de Brodin au début des années 80 qui a vraiment lancé quelque chose. Et puis après, il y a eu la fausse commémoration de 94, hein, puisqu'elle n'était pas officiellement une commémoration, qui l'a vraiment à lancer les études dreyfusiennes. On a beaucoup revu un certain nombre de choses. On avait jusqu'à présent une conception très mémorielle, en fait, de ce qu'était l'événement. Et là, on est passé dans une histoire, à mon avis, beaucoup plus historienne, qui permet de relativiser beaucoup de choses. Alors, pas sur l'essentiel, hein. Dreyfus est innocent, Esterhazy est traître, et l'état-major est le grand coupable. Ça, on va pas revenir dessus. Mais qui nous permet d'affiner un peu la connaissance qu'on a, et aussi sur les enjeux, les implications, etc. Et il y a eu quelques livres qui me semblent importants. Il y a eu la grande biographie de Vincent Duclert. C'était la première fois. Il aura fallu attendre 120 ans pour avoir la première biographie d'Alfred Dreyfus, qui me semble assez extraordinaire. Moi, j'avais essayé un peu de lancer les choses avant en publiant Les souvenirs inédits de Dreyfus. Et puis surtout, là, il y a le livre qui vient de sortir, qu'on a voulu comme un monument, mais au sens premier du terme, et qui sont les œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, là, qui viennent de sortir aux belles lettres, et qui accompagnent l'exposition comme l'exposition accompagne cette publication, quoi, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là, et d'incarner l'événement, pour reprendre un peu ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est-à-dire de donner un peu de chair et de suivre Dreyfus, de connaître l'affaire Dreyfus, en écoutant Alfred Dreyfus nous en parler finalement.
La première personne. Alors ouais. Qu'est-ce que les écrits dont vous parlez? Vous venez donc de publier l'ensemble des écrits de Dreyfus. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent que nous ne savions pas?
Beaucoup de choses, parce qu'en fait, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a une image un peu convenue de ce Dreyfus, qui est un Dreyfus qui est soit ridiculisé, comme le disait un de ses petits-fils, Jean-Louis Lévy, qui a écrit un article absolument fondamental sur Dreyfus, et qui est le premier à avoir essayé de remettre Dreyfus à sa juste place, quand il n'est pas néantisé. C'est-à-dire qu'en fait, Dreyfus n'existe pas. Et quand il existe, il est présenté comme un être falot, stupide, qui n'a rien compris à son affaire, qui peut-être même, comme l'a dit Léon Blum, et là je suis malheureux quand je dis cette phrase, parce que j'aime passionnément Léon Blum, qui aurait été anti-Dreyfusard s'il n'avait été Dreyfus. Et donc, c'est vrai que cette image-là, qui a été imposée par une partie des Dreyfusards, qui a été imposée aussi par notre jeunesse de Peggy et par les écrits d'Anna Arendt, forge cette image d'un Dreyfus qui est à côté de son histoire. Et là, l'idée, c'est de montrer déjà quel personnage étonnant il est, quelle plume il a aussi, et de montrer la force de l'écrit et la manière dont il a pensé que l'écrit était non seulement un moyen de résister, mais aussi un moyen de transmettre derrière, et ça c'était vraiment important, et puis de montrer que ce personnage est vraiment le principal protagoniste de sa propre affaire. Par exemple, dans ses œuvres complètes, on publie des pages qui étaient presque inédites, parce que j'avais un peu publié sur Internet, mais en tout cas pas en volume, et qui sont les notes prises au jour le jour par Alfred Dreyfus, avant et pendant son procès de 1894, à destination de son avocat, et où en fait on voit un Dreyfus qui mène le combat. C'est-à-dire que c'est lui qui mène, c'est lui son propre avocat en fait. Et ça c'est vraiment étonnant, voilà. Et en plus, ce monsieur écrit admirablement bien, je trouve.
Il y a dans le texte biblique un épisode que l'on peut mettre en relation avec l'affaire Dreyfus. Je pense au livre d'Esther, même accusation, même retournement de situation, avec des petites variantes, puisque le vrai coupable dans l'affaire Dreyfus finit sa vie tranquillement à Londres, jusqu'à sa mort. Mais dans les deux cas, la vérité éclate en un coup de théâtre, bien souligné dans les récits respectifs. Ressemblance de l'intrigue, qui a peut-être joué un rôle dans la mémoire et la transmission de l'affaire. Mais si l'on peut rapprocher ces deux épisodes, c'est que dans les deux cas, l'écriture joue un rôle majeur. Il y a une obligation dans la tradition juive d'écrire l'histoire d'Esther sur un rouleau de parchemin et de le lire une fois par an à l'occasion de la fête de Pourim. Or, quand on parcourt l'exposition, on voit tout au long du parcours, comme vous l'avez dit Isabelle Kahn, des citations de Dreyfus qui nous accompagnent écrites sur les murs. On comprend bien alors ce que vous avez précisé, que c'est une exposition avec Dreyfus et pas seulement sur Dreyfus, mais cette écriture ne vient-elle pas aussi dire, et peut-être essentiellement, qu'il y eut chez cet homme une forme de résistance par l'écriture, un combat par l'écriture, dont le J'accuse de Zola, bien sûr, en fut le plus beau témoignage et le plus bel écho au texte du livre d'Esther, qui fut peut-être incarné par Lucie Dreyfus. Isabelle Kahn.
Alors c'est un parallèle vraiment très très intéressant, parce qu'en effet, l'écriture de Dreyfus va construire le retournement. Ce retournement, évidemment, il va être politique, il va y avoir des relais. Mais c'est lui qui, dès le début, dès cette lettre hein, lue au début de l'émission, veut absolument que la vérité soit faite et rétablir l'honneur de son nom. La personnalité de Dreyfus, on l'a souligné, est peut-être une personnalité avec un mélange de modestie, mais aussi de persévérance et surtout, je trouve, d'une grande qualité juive qui est l'espérance. Il a toujours eu conservé cette espérance, et peut-être que c'est une projection, mais je trouve qu'on peut presque la deviner dans son attitude, dans cette physionomie, assez droite, ses yeux bleus. Puisque grâce à la colorisation et des photos, maintenant on peut même apprécier le bleu de ses yeux. Et c'est très important donc de montrer cette personnalité, non pas en creux, mais vraiment comme le moteur essentiel du retournement.
Le musée d'art et d'histoire du judaïsme voit depuis toujours le capitaine Dreyfus un peu comme son parrain. C'est en tout cas ce que l'on ressent par la présence de la grande sculpture de Dreyfus dans la cour d'honneur du musée, qui accueille jour après jour tous les visiteurs. Ce n'est pas rien, et je crois qu'il faut préciser que le musée d'art et d'histoire du judaïsme possède l'un des plus grands fonds d'archives consacrés à Dreyfus. Comment avez-vous fait le choix dans cet immense ensemble de documents auxquels vous avez ajouté des œuvres et des objets divers venant d'autres musées?
Alors, c'est vrai que le musée d'art et d'histoire du judaïsme peut être qualifié de musée Dreyfusard, puisque nous sommes accueillis dans la cour d'honneur par cette sculpture qui est une fonte, qui est une résine en réalité de la fonte originale, d'après la fonte originale de Tim. Par ailleurs, donc l'exposition s'est construite autour d'archives. Il y a plus de 250 documents d'archives, de lettres, de manuscrits, de photographies, mais également autour d'œuvres d'art, une soixantaine d'œuvres d'art. Nous avons voulu conjuguer en quelque sorte la vérité et la beauté, l'esthétique, puisque un certain nombre d'artistes se sont engagés autour de Dreyfus. Alors les œuvres dreyfusardes sont rares, mais elles sont quand même présentes dans l'exposition. Et Philippe, peut-être que tu peux développer autour d'œuvres prêtées justement aussi.
Oui, ou même pour revenir sur les archives. Alors moi je les connais bien, puisque j'étais au musée d'art et d'histoire du judaïsme à l'époque où on était dans les combles de Carnavalet. Et en fait, j'étais entré au musée pour un petit contrat, pour inventorier justement ce fonds. Une partie du fonds familial, en fait. La famille Dreyfus donne très largement, et ils sont assez extraordinaires d'ailleurs pour ça, parce qu'ils aident l'historien à historier. Donc le choix était facile à faire, et notre idée surtout, c'était d'éviter l'exposition de papier. Parce que les documents d'archives, c'est absolument extraordinaire, mais le document d'archives, la plupart du temps, ça parle pas à un public qui est un public, en fait, qui a envie de comprendre, quoi. Et donc l'idée, c'était de montrer ça, et de, comme disait Isabelle tout à l'heure, de recontextualiser aussi, et de comprendre que cette belle époque, qui est vraiment une notion a posteriori, n'était peut-être pas aussi belle que ça, et que les choses étaient un peu plus complexes, ne serait-ce que d'ailleurs, parce que c'est le lancement de la grande mode, puisqu'il y a eu une mode de l'antisémitisme. Donc l'idée aussi, c'était de montrer des choses, et là sur les premiers retours qu'on commence à avoir, c'est aussi, me semble-t-il, un des points forts de cette exposition, qui nous permettent de comprendre l'époque à travers les œuvres, et aussi de voir des œuvres qui sont parfois pas très connues, certaines qui sont exposées même pour la première fois.
Par exemple.
Et par exemple, alors il y a un Pissarro absolument magnifique, où par exemple, à un moment, on se posait la question à la fin sur la question de la grâce de Dreyfus, l'amnistie et la réhabilitation, c'est-à-dire la dernière partie de l'affaire Dreyfus. Comment on pouvait montrer ça? Et en fait, on a eu l'idée de se dire que on pourrait peut-être le voir à travers les portraits des protagonistes. Et il y a quelques tableaux, on voit un tableau qui représente René Waldeck-Rousseau, un tableau qui représente le général de Gallifet, le général André, etc., et qui sont assez spectaculaires. Enfin, moi, le Gallifet me fascine, quoi. C'est un tableau qui hurle même, je trouve, avec ce pantalon rouge incroyable, et puis cette arrogance terrible qui était celle de Gallifet. Donc voilà, l'idée, c'était d'essayer de trouver d'autres biais, plutôt que de montrer un papier qui parle de la grâce, quoi. C'était plus intéressant de passer toujours à travers les hommes au sens générique du terme, bien évidemment, même s'il y a beaucoup plus d'hommes, de masculins que de féminins.
Alors, ce Pissarro, Isabelle Kahn.
Oui, c'est une œuvre magnifique qui est arrivée un petit peu à la dernière minute dans l'exposition, et nous sommes très reconnaissant au propriétaire d'avoir prêté cette œuvre qui n'est pas connue du tout en France et qui montre Paris en 1897, donc en pleine affaire Dreyfus, un Paris très très agité, un Paris où on fait des affaires, on se promène, une ville lumière, enfin il y a quelque chose d'extrêmement séduisant. Et mais derrière cette séduction, évidemment, et ce regard que nous portons a posteriori sur ces paysages, eh bien, on devine une société âpre, on devine des combats. On devine aussi, chez Pissarro, cette observation de la ville à distance, puisque lui-même habite à la campagne. Et Pissarro est là plus particulièrement pour deux raisons. Parce qu'il est anarchiste et qu'il a très tôt une conscience politique. Parce qu'il est juif et qu'il prend conscience de sa judéité un petit peu avant l'affaire Dreyfus, mais quand même de manière un petit peu parallèle, quand il lit Bernard Lazare et son livre sur l'antisémitisme, il lui écrit et le félicite et lui dit « Mais voilà, tous les deux, d'ailleurs, c'est pas par hasard, nous sommes juifs, nous sommes anarchistes et nous avons cette conscience. » Pour nous, Pissarro est un des protagonistes importants qui nous a accompagnés. Nous étions heureux aussi de pouvoir le présenter dans l'exposition avec ce tableau magnifique.
Un des aspects importants de l'affaire Dreyfus est la naissance des intellectuels, naissance d'un terme et d'une prise de position. Qui sont ces intellectuels et comment sont-ils nés au cœur de l'affaire? Et quelles furent leurs actions? Et comment avez-vous choisi de les mettre en scène dans l'exposition, Isabelle Kahn et Philippe Auriol? Je pense justement particulièrement à Bernard Lazare que vous venez de citer, Philippe Auriol.
La chose est assez complexe et mérite un très léger développement. En fait, la notion d'intellectuel, elle existe bien avant. Et d'ailleurs, il y a un texte de Bernard Lazare, au début de l'année 1894, c'est-à-dire quelques mois avant l'affaire Dreyfus, dans laquelle il explique qu'il se considère comme intellectuel, parce qu'il décide de reprendre, un peu comme les gueux, quoi. Il décide de reprendre possession de ce mot que les acéphales de la critique, comme il écrit, lui lancent en guise d'injure. Et donc, la notion d'intellectuel est vraiment déjà là à cette époque-là. Il y a un moment où, effectivement, avec l'affaire Dreyfus, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel qu'on avait un peu vu, à vrai dire. Il suffit de lire, par exemple, les travaux de Christophe Charles pour s'en convaincre. Mais au moment des affaires anarchistes, un certain nombre de gens qui... Parce que c'est ça aussi la définition d'un intellectuel, quelqu'un qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. On va aller faire un tour chez Sartre pour ça. Et qui décide que son rôle aussi, c'est parce que lui a la capacité de parler, parfois a la capacité d'être peut-être pas écouté mais entendu, de prendre la parole quand il estime devoir la prendre, et que son rôle c'est pas uniquement d'être dans une tour d'ivoire, mais de descendre dans le forum parmi la population pour discuter. Il y a un Dreyfusard que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Alexis, un ami de Zola, petit naturaliste complètement oublié aujourd'hui, et c'est très dommage, qui écrit à Zola justement un moment en lui disant « Grâce à vous, nous venons de déplacer l'axe de la littérature ». Et c'est assez intéressant comme idée. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que ces gens qui sont des savants, qui sont des politiques parfois, mais moins, qui sont des écrivains, beaucoup, qui sont des artistes, des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des graveurs, partent du principe que leur rôle aussi, c'est d'essayer de participer un peu à changer les choses. Et à une époque, d'ailleurs c'est pas par hasard, où le grand débat est en train peut-être de se résoudre sur quelle est la finalité de l'art. Est-ce que l'art est l'art pour l'art, ou est-ce que l'art doit être social, voire, pour quelqu'un comme Bernard Lazare, socialiste. Et donc voilà, et l'engagement des intellectuels, il est là. Alors naturellement, c'est l'affaire Dreyfus qui va cristalliser la notion et le mot. Et depuis, le mot s'est imposé tel quel, mais en fait, il est déjà là, et on voit ces gens qui agissent, et parfois, comme Lazare, pratiquement au péril de sa vie, parce qu'il en mourra finalement, ou comme Zola, qui fait le sacrifice de sa liberté, puisqu'il sait qu'il va aller en prison. Et quand il écrit « J'accuse », l'idée c'est de défendre Dreyfus, mais pas tellement de défendre Dreyfus, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Son idée aussi, c'est surtout de montrer aux gens qui vont le lire que la France est en train de marcher sur la tête, et que l'antisémitisme ne pourra jamais être une solution.
Le service du contre-espionnage français a appris qu'un document secret contenant des informations sur un nouveau canon a été découvert à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Alfred Dreyfus, polytechnicien, alsacien et juif, membre de l'état-major de l'armée, est rapidement soupçonné. Convoqué le 15 octobre 1894 par le commandant Dupaty de Clam, en présence du chef de la sûreté et d'un huissier dénommé Gribelin, Dreyfus est contraint d'écrire le texte de ce fameux bordereau sous la dictée. Le commandant Dupaty de Clam, estimant que l'écriture de Dreyfus est semblable à celle du document détourné, tente un pistolet à Dreyfus, lui offrant par le suicide une chance de laver son honneur. Mais Dreyfus refuse.
Nous sommes en train d'entendre les premières minutes du film muet de Georges Méliès de 1899, restauré par Lobster Film en 2009. Le son a été rajouté par les éditions Lobster lors de sa restauration avec un texte écrit sur la base des textes fournis par Méliès lui-même. Là encore, les images sont au centre de l'affaire. Isabelle Kahn.
Oui, l'affaire Dreyfus a été aussi un combat d'image, un combat au niveau de la presse illustrée, avec les caricatures, avec les dessins. Au fond, c'était les seuls témoignages aussi de ces combats et également de l'expression des idéologies. Donc il y a eu ce combat des images, mais pas seulement. Il y a eu aussi des combats menés par certains artistes à un niveau plus symboliste d'ailleurs qu'illustratif. Et je pense ici à Gallet, le verrier et ébéniste, qui à l'époque connaissait une très très grande réputation et qui était un artiste engagé et qui a créé des verreries dédiées à Dreyfus. Donc il est absolument offusqué du verdict du procès de Rennes, et à partir de là, il va construire tout son stand de présentation de l'exposition universelle de 1900 en hommage à Dreyfus, avec des verreries accompagnées de sentences, de vers, autour de notions comme la vérité, la lumière ne s'éteindra jamais, et également couvrir ces quelques meubles, ces citations, qui montrent à quel point son engagement se trouve à un niveau général. C'était un grand humaniste. Donc je pense que c'est un des aspects qui n'est pas très connu.
Isabelle Kahn, qu'est-ce que l'on voit au fil des salles de cette exposition ?
Donc le parcours de l'exposition se déroule chronologiquement. Nous partons de la naissance d'Alfred Dreyfus avec la présentation de sa famille parce que son ancrage alsacien est très très important et également l'événement dramatique de la guerre de 1870 est déterminant pour sa vocation de militaire, son engagement patriotique. Et l'exposition ensuite va présenter le contexte de l'époque et ensuite nous suivons l'histoire d'une manière chronologique depuis l'accusation jusqu'à la réhabilitation à travers un parcours qui est scandé par les principaux épisodes de l'affaire Dreyfus. Et d'ailleurs, ce qui nous a beaucoup interrogé aussi avec Philippe, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on a divisé cette affaire en différents épisodes et comment le cinéma a pu jouer un rôle aussi dans cette narration et dans ce séquençage de la narration.
Je crois que le film de Méliès a eu un rôle majeur, comme s'il avait créé la matrice narrative qui va ensuite être prise par l'ensemble à la fois des films et des pièces de théâtre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette narration de Méliès ?
C'est une narration extrêmement claire, avec des décors très travaillés, d'ailleurs à partir de photographies, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens d'enregistrement d'images. Donc le film de Méliès, tourné à peine un mois après le procès de Rennes, va en quelque sorte transformer un événement historique en phénomène visuel. Et pendant un certain temps, les réalisateurs vont suivre cette matrice pour raconter l'histoire de Dreyfus et créer ce personnage vivant, tel que, à part les témoins au moment des procès, personne ne l'avait vu. Et même au moment où les gens s'engagent Dreyfusard, anti-Dreyfusard, personne ne connaît Dreyfus. Donc le cinéma va jouer ce rôle de création d'un personnage et aussi d'une certaine mise à distance de l'histoire. C'est une histoire extrêmement complexe, avec beaucoup beaucoup de dates. Et évidemment, il faut la simplifier pour la comprendre, pour tout suivre.
Alors ce qui est intéressant, vous avez dit que c'est un combat d'images, on l'a un peu évoqué dans la première partie. Dans ce combat d'images, il y a dans l'exposition des images justement consacrées à la vérité et à la manière dont la vérité était représentée à la fois par les Dreyfusards et à la fois les anti-Dreyfusards. On pense à ces caricatures sur le puits de la vérité.
Ça, c'est un projet que j'ai un jour, c'est de faire une exposition uniquement sur la vérité parce qu'il y a des centaines de représentations. Et nous, bien évidemment, là, dans le musée, on montre l'inévitable, on le voit souvent, mais il faut le voir parce que c'est un tableau qui est étonnant, quoi. Qui est le fameux de Bas-Ponsan, la vérité qui sort du puits, où on voit donc cette vérité tenant son miroir qui essaye d'apparaître au grand jour et qui, naturellement, est empêchée. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre aussi toutes les implications politiques et ce qu'il y aura derrière, qui est empêchée par un muscadin, un aristocrate, et à côté de ça, un membre du clergé, le sabre et le goupillon, qui luttent contre la vérité au grand jour, partant du principe qu'elle doit être sous le boisseau, puisque c'est comme ça que l'état-major a fonctionné, et qui est intéressant parce qu'elle nous permet aussi de comprendre ce qui va se passer par la suite, et qui va nous amener assez rapidement au vote de la loi de séparation des églises et de l'État. Parce que ce tableau permet de comprendre ça déjà, la présence du curé, qui essaye d'enfoncer la vérité dans le puits, est quelque chose qui va falloir régler. Alors,
pour préciser, on a l'impression, en vous lisant tous les deux, à la fois dans le catalogue, mais en lisant l'exposition comme visiteur, oui, on a l'impression que la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État, est une conséquence de l'affaire. Isabelle Kahn, vous voulez rajouter ?
Peut-être justement, pour revenir aux images et aussi aux œuvres présentées dans l'exposition, nous présentons des dessins réalisés par Maurice Feuillet, des dessins du tribunal, enfin des tribunaux, puisqu'il y a à la fois le procès de Zola et le procès de Rennes, et on voit le crucifix au niveau du juge.
Ouais.
Voilà. Donc c'est en effet un élément qui va faire basculer complètement la société et surtout la République. Permettre de s'affirmer en tant que république.
Il y a quelque chose justement qui est important dans cette exposition par rapport à tout ce que vous venez de dire. Alors on n'a pas le temps de développer la présence du cinéma et du théâtre et de la censure qui a eu lieu par rapport à tout cela, mais on peut le découvrir dans l'exposition. Mais ce qui est vraiment très intéressant et très très important, on a l'impression en découvrant cette exposition qu'elle est comme nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, à l'intention des nouvelles générations. Comment avez-vous pensé cette question de la transmission et de la pédagogie et de la place de l'affaire dans le cursus scolaire, Isabelle Kahn et Philippe Auriol?
L'affaire Dreyfus fait déjà partie de l'enseignement au collège, hein, je crois que c'est en quatrième, on apprend l'affaire Dreyfus. Et le MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, a mis en place un formidable arsenal d'éléments qui permettent justement une visite dédiée aux jeunes, avec aussi des processus assez innovants qui permettent justement d'aborder l'affaire qui est quand même extrêmement complexe, à la fois d'une manière vraie, mais relativement simple, et que les jeunes se posent des questions. Et ce qui était important pour nous aussi dans l'exposition, c'est que cette exposition est vraiment un écho dans l'actualité. Qu'on puisse parler au public d'aujourd'hui, et surtout aux jeunes, sans qu'ils rechignent à aller voir une exposition d'histoire. L'histoire, au fond, comme disait Philippe et avec d'autres, c'est un continuum. Et on voit bien aussi que certaines recettes réapparaissent. Et il faut vraiment décrypter, démonter. Et c'est le but de cette exposition.
L'idée, c'est de montrer non seulement les vertus émancipatrices de la République, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'un jeune israélite, comme on disait à l'époque, peut devenir général, voire même, s'eût été imaginable, ministre de la guerre, même si les ministres juifs en France, ça n'a jamais été simple, mais s'eût été possible, parce qu'il a un cursus académique absolument formidable qui lui ouvre normalement les grandes carrières administratives et les grandes carrières de l'État, on aurait pu l'imaginer. Bien évidemment, ça aurait pas été le cas, mais on pourrait l'imaginer. Comme, de l'autre côté, Zola, italien, devient un des plus grands écrivains français. Et à côté de ça, bien évidemment, de montrer quelque chose aussi qui a quand même de l'écho chez nous aujourd'hui, c'est que, même si il y a une unicité de l'antisémitisme, qui est quelque chose qu'on peut pas discuter, l'antisémitisme et le racisme ne fonctionnent pas de la même manière, puisqu'en fait, ils fonctionnent à l'envers, si on veut bien réfléchir, l'un par rapport à l'autre. Mais qu'en tout cas, à la fin du 19e aussi, et d'ailleurs, j'ai un peu, moi, le sentiment que c'est en train de redevenir comme ça, c'est que l'antisémitisme s'inclut aussi dans quelque chose de beaucoup plus large qui s'appelle tout simplement la xénophobie, et que le juif est un métèque au même titre que l'italien, si on veut garder l'exemple de Zola. Et c'est quand même intéressant de voir que cet antisémitisme, si on prend la libre parole, je le répète tout le temps mais j'y tiens absolument, le sous-titre de la libre parole, c'est la France aux Français. Le journal antisémite a ce sous-titre-là. Et là, c'est intéressant. Et je pense que les scolaires, la plupart du temps, qui, comme tous les Français, viennent de partout, puisque la France a été constituée de cette manière-là, moi, je le vois au musée, ça les fait beaucoup réfléchir.
Merci Isabelle Kahn, merci Philippe Auriol pour cette conversation absolument passionnante. Je conseille à tous les auditeurs de se rendre à cette très belle et importante exposition intitulée Alfred Dreyfus, Vérité et Justice. C'est du 13 mars au 31 août 2025. C'est au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris. Et pour ceux qui ne pourront s'y rendre, je recommande le magnifique catalogue de l'exposition réalisé sous votre direction. Merci encore à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Nicolas Depagraf, à la réalisation Alexandra Malka. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.